Alors, on ouvre nos Bibles dans Lévitique au chapitre 25, le verset 9, qui est la base de notre réflexion tout au long de cette semaine. Vous savez qu'on parle du jubilé un peu plus en profondeur pendant les 7 prochaines semaines, maintenant un peu moins, puisqu'on a débuté dimanche. Donc, ça va être l'occasion d'étudier certains aspects. On a nommé cette série-là les 7 ou 7 leçons tirées du jubilé. Non pas les, mais 7 leçons tirées du jubilé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la prétention d'affirmer qu'il n'y a que 7 leçons à tirer du jubilé. Non plus, je n'ai pas la prétention de sortir toutes les leçons de cet événement important qui survenait dans le calendrier juif et aussi dans l'histoire de l'Église. Donc, je reste avec un nombre indéfini un peu, avec une approche indéfinie. J'ai sorti 7 points qu'on va partager donc à travers les prochaines semaines. Donc, je lis pour vous dans Lévitique au chapitre 25, le verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette du jubilé. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette du jubilé dans tout votre pays. Je répète le verset. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette du jubilé. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette du jubilé dans tout votre pays. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets le terme jubilé dans ce verset-là, certaines traductions l'ont. D'autres l'ont omis, mais lorsqu'on retourne au texte hébraïque, on se rend compte qu'effectivement, il y avait les trompettes du jubilé qui étaient utilisées strictement cette journée-là de proclamation du début du jubilé qui survenait donc à la fin de la journée du Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On sait que c'est une fête importante, un jour important dans le calendrier juif, dans l'année juive, mais très souvent on a peut-être peu de connaissances sur ce que ça représente et quelle est sa traduction peut-être dans nos langues contemporaines ou occidentales telles que le français. En fait, le jour du Yom Kippour veut dire le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, le jour du rachat. Le terme « Kippour » et peut-être revenir un peu sur les termes qu'on a utilisés cette semaine. Je ne vous avais pas donné le nombre de fois où ils apparaissaient. Donc, lundi, on a parlé du terme « Yom », le terme « jour ». Il apparaît 2287 fois. C'est un terme très usuel dans la parole de Dieu. Donc, « Yom » 2287 fois. Pour ceux qui prennent des notes, c'est pour ça que je ralentis et je répète. Le terme « Teruwa » éclatant, qu'on a vu mardi, il apparaît 36 fois. Et le terme Kippour, dans Yom Kippour, donc K-I-P-P-U-R, c'est une des translatations, translittérations, une des façons qu'on l'écrit dans notre langue moderne, même si c'est un terme hébraïque. Vous avez souvent deux orthographes, donc Kippour, K-I-P-P-U-R, ou Kippour, K-I-P-P-O-U-R. Ça se prononce de la même façon, c'est simplement que c'est un terme en hébreu, donc le mettre dans une phonétique occidentale, ça va dépendre de la langue qui est la vôtre. Donc Kippour, qui apparaît 8 fois seulement dans l'Ancien Testament. Et j'ai été faire ressortir chacune des références dans lesquelles on utilisait ce terme Kippour. En fait, il apparaît dans 8 versets, dans 6 versets plutôt, mais dans ces 6 versets, parfois il apparaît 2 fois dans certains d'entre eux. On ne prendra pas le temps de lire chacun des versets. Je vous dirai toutefois la référence et la traduction en français dans notre traduction la plus habituelle qui est la traduction Louis II. Quel est le mot, le groupe nominal, l'expression qui représente donc le Kippour? Premièrement, il va apparaître dans Lévitique au chapitre 23, les versets 27 et 28, Lévitique 23, 27 et 28, Et dans le passage d'aujourd'hui, donc Lévitique 25, le verset 9, et lorsqu'on va parler du Kippour ici, on va le traduire par jour d'expiation. Donc le terme expiation, c'est un terme qui n'est pas trop usuel en français. L'expiation veut dire le pardon. Ça veut dire qu'il y a un processus qui a été donné, parce que c'est plus que tout simplement une question instantanée. Il y a comme un processus, une mécanique qui vient dedans. Qu'est-ce qui a servi, ou ce qui a servi plutôt, au pardon de nos péchés et au rachat du pécheur? Donc, première chose qu'on doit savoir, le Yom Kippour, lorsqu'on va parler dans Lévitique 23, 27, 28, et dans Lévitique 25, le verset 9, qui est le nôtre, on se rend compte que c'est le jour des expiations. On ne parle pas des jours d'expiation, mais on parle du jour d'expiation. Et c'est un principe qui est très biblique, un jour qui est précis, un jour qui est unique. Le Seigneur va parler du jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Ce jour-là, effectivement, se reproduit 24 heures après 24 heures pour chacun d'entre nous, pour le salut du pécheur. Mais il reste que dans la mémoire de Dieu, dans la pensée de Dieu, et j'espère dans la pensée du croyant, qui est en fait un pécheur repenti, un pécheur gracié, il y a cette journée importante, cette journée marquée dans les annales du ciel où votre vie, ma vie, notre vie a été changée. Non seulement ce jour du salut représente le jour de la mort de Jésus à la croix, c'était ce jour d'expiation par excellence, cette journée où on cessait à partir de ce moment-là. Les sacrifices, dans le sens où ces sacrifices qui étaient exécutés jusqu'à ce moment-là, n'avaient plus aucune utilité, puisque le sacrifice ultime, l'offrande de la brebis par excellence, de l'agneau de Dieu, se faisait à Golgotha, au calvaire, à travers la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Donc c'est un jour unique. Et ça devrait être un jour unique dans votre vie et dans ma vie. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la seule journée qui existe comme celle-là. Il y a eu un avant la mort de Jésus et il y a un après la mort de Jésus. Il y a un fonctionnement de Dieu quant au salut de avant la mort de Jésus et il y a un fonctionnement du salut divin qui s'opère après la mort de Jésus. La mort de Jésus est venue sceller l'acte d'expiation, l'acte de rédemption ultime que Dieu offrait à l'humanité. Et pour toi et pour moi, il devrait y avoir effectivement cette marque. À un moment donné, nous venons à Dieu et cette journée précise, on peut ne pas se rappeler de la date exacte. J'ai moi-même de la misère à dire quelle était vraiment la date. Et puisqu'on sait que ce jour de repentance fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, donc il y a un processus dans tout cela. Est-ce que c'est le jour où j'ai accepté Jésus? Est-ce que c'est le jour où je me suis fait baptiser dans l'eau? C'est l'ensemble de ça qui fait le processus de la nouvelle naissance. Mais il y a quand même cette rencontre importante avec le Christ, cette rencontre importante avec Jésus, où nous reconnaissons notre état de pécheur, où nous implorons la grâce et le pardon de Jésus, où nous comprenons que Jésus a versé son sang et donné sa vie pour nous, et où nous recevons le pardon de nos péchés, et où nous donnons notre vie à Christ pour qu'il l'utilise à bon escient pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Donc il doit y avoir cette journée, ce temps spécifique dans lequel notre vie est transformée, le cours de notre vie est changé. Je disais hier ou avant-hier qu'une vie qui vient à Christ et qui ne change pas, qui ne se transforme pas, qui reste la même, c'est un problème. Notre vie en rencontrant Christ devrait être changée, transformée, Le cours de notre vie ne devrait plus être le même, les objectifs de notre existence ne devraient plus être les mêmes après avoir rencontré Jésus et après avoir fait en sorte que notre vie lui revienne et lui appartienne. Donc, premier point dans la journée expiatoire, c'est une journée unique. Et il faut s'arranger, il faut travailler plutôt à ce que lorsque nous partageons l'Évangile, que ce soit effectivement une journée unique pour la personne qui nous écoute et la personne qui vient à entendre parler de l'Évangile, que ce soit l'occasion pour elle de se tourner vers Dieu, de demander pardon pour ses fautes et de confier son existence à Jésus. Donc, premier point, jour d'expiation, un jour bien particulier, un jour bien saisi. La deuxième expression, on va la trouver dans Exode, au chapitre 30 et le verset 10. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge hier avec les examens à l'hôpital. L'air est très sec, donc ça affecte un peu la gorge. Donc, Exode 30, le verset 10, l'expression pour Kippour ici va être traduite par offrande d'expiation. Offrande d'expiation. Il y avait dans les rituels juifs, dans les rituels hébraïques, il y avait cette offrande qu'on faisait à Dieu, qu'on amenait à Dieu et qui avait un sens tout particulier. Il y a des offrandes parfois qu'on faisait pour remercier Dieu. Il y avait des offrandes qu'on faisait pour louer Dieu. Il y avait des offrandes qu'on faisait pour bénir telle chose ou telle chose. Mais il y avait aussi des offrandes spécifiques, notamment le jour du Yom Kippour. Les offrandes qui étaient faites ce jour-là, c'était des offrandes d'expiation. Donc des offrandes qui visaient au pardon des péchés, à la rédemption du pécheur. Et Dieu lui-même, dans ton cas et dans mon cas, et tu peux dire amen à cela, Dieu lui-même a fait une offrande en offrant, en donnant son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le verset qui est probablement le plus populaire du protestantisme, au moins, un verset qu'on a tous appris à l'école du dimanche, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Donc ce don, cette offrande, vient directement de Dieu. Et c'est important pour toi et pour moi. Ça change cette image de père fouetteur que l'on attribue régulièrement et de façon erronée à Dieu. Le péché, c'est notre décision. Notre condition de pécheur et notre maintien dans cette condition de pécheur et cette condamnation qui suit notre condition de pécheur vient d'une décision de rejeter Dieu, de se détourner de lui. Mais l'offrande de Dieu est déjà accessible pour toi et pour moi avant même qu'on existe. Alors quand on vient en âge de connaître le bien et le mal, quand on vient en âge d'être confronté avec notre état, avec la réalité de notre état de pécheur, nous sommes par le fait même confrontés avec une décision de demander le pardon pour nos fautes, de demander l'expiation de nos fautes, de recevoir le pardon, la grâce de Jésus et de lui remettre notre existence. Mais à la base, celui qui a organisé cette expiation, celui qui a initié cette expiation, c'est Dieu lui-même qui a donné son Fils unique afin que toi et moi, qui croirais en lui, nous ne périssions point, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc la deuxième chose que tu dois savoir quand on parle d'offrande d'expiation, c'est que le Seigneur t'a tant aimé que lui-même n'a pas voulu que tu restes dans cet état de pécheur. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état de condamnation par rapport à la jurisprudence ou au droit, à la judicialité du ciel. Dieu veut que tu accèdes au pardon et Dieu lui-même a initié la voie qui te mène au pardon à travers le don, à travers l'offrande qu'il a fait par Jésus à la croix. Donc cette offrande est une offrande divine. Dieu a fait lui-même l'offrande ultime pour te sauver et pour me sauver. Lorsqu'on parle du jour d'expiatoire et du jour expiatoire, on parle aussi comme troisième expression, et là on le trouve dans Nombre au chapitre 29 et le verset 11. Nombre 29, verset 11. Lorsqu'on va parler du Kippour, on va maintenant parler de l'expression un sacrifice d'expiation. Un sacrifice d'expiation. Il y a eu un sacrifice divin. Au-delà des sacrifices qui étaient demandés aux Juifs jusqu'à la mort de Jésus, qui étaient d'offrir des victimes expiatoires, que ce soit un agneau, que ce soit un bélier, que ce soit des vaches, que ce soit des bœufs, que ce soit parfois même des pigeons ou autres, dépendamment de la richesse de celui qui venait faire l'offrande. Dieu lui-même a donné l'offrande et le sacrifice ultime. Et Jésus va dire à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai trouvé. » Et il va dire avant sa mort, « Personne ne m'enlève la vie, c'est le Fils de l'homme qui donne lui-même sa vie. » Ça veut dire que Dieu a offert, Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, a offert sa vie physique comme sacrifice pour toi et pour moi. Dieu a offert un sacrifice divin pour ton expiation et pour mon expiation, pour ta rédemption, pour ma rédemption, pour ton rachat et pour mon rachat. On se rappelle que cette semaine, on parle de la proclamation. Voici des choses qui doivent être proclamées. Il faut qu'il soit proclamé que le pécheur doit venir à cette décision, à ce jour tout à fait unique où il se tourne vers Jésus. Il doit comprendre, il doit apprendre, il doit entendre de notre bouche que Dieu lui-même a offert Jésus en offrande pour le salut de l'humanité. Et il doit savoir que Jésus lui-même s'est offert. Ça n'a pas été un tordage de bras. Il n'est pas allé à la croix ne désirant pas y aller. Il est allé à la croix en offrant lui-même sa vie, en sachant ce que ça allait lui coûter, en sachant la douleur de ce que représentait la croix, mais en offrant sa vie. Jésus va dire lui-même, quelques heures avant ce sacrifice, lorsqu'il prenait la Pâque, cette dernière Pâque avant sa mort, et il dit à ses disciples, « J'ai vivement désiré prendre cette Pâque avec vous, parce qu'il savait qu'elle représentait la dernière fois où on illustrait la grâce de Dieu à travers le sang qui avait été répandu sur les linteaux des portes du peuple juif à la sortie d'Égypte. Et il savait que dans quelques instants, cette Pâque allait prendre toute son ampleur, toute sa dimension éternelle avec son corps qui serait offert en sacrifice pour toi et pour moi. Jésus savait exactement ce qui allait se passer. Il savait que Judas allait le vendre. Il savait que Pierre allait le renier. Il savait qu'on allait l'arrêter. Il savait qu'on allait percer ses mains, ses pieds, son côté. Il savait les épines qui allaient percer son front. Il savait les coups de fouet qui allaient ravager son dos. Il savait la douleur qu'il allait souffrir à la croix. Mais il disait, « Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, en offrant lui-même son corps, en offrant lui-même sa vie, en sacrifice pour toi. » Donc Dieu t'a tellement aimé. Le pécheur doit savoir que Dieu l'a tellement aimé qu'il n'a pas laissé le salut entre les mains du pécheur. Il n'a pas laissé le salut entre les responsabilités même du pécheur. Il a pris lui-même sur ses épaules, mettant sur Christ les péchés de l'humanité. Il a mis sur lui la responsabilité du salut en offrant cet agneau parfait de Dieu en sacrifice pour toi et pour moi. Et on doit répéter ce message important. Le salut a déjà été payé. Le salut a déjà été acquis. Il faut maintenant que le pécheur se tourne vers Jésus. Et le seul moyen de recevoir ce salut, c'est en reconnaissant son état de pécheur, en se tournant vers lui et en lui disant « Pardon Seigneur ». Pardonne mes fautes, reçois-moi tel que je suis et je te donne mon existence pour que tu en fasses ce que tu veux. Toi qui as donné ta vie pour moi, je donne ma vie maintenant pour toi. Alors voilà le message important qu'il nous faut annoncer, un message d'expiation où un jour unique de décision nous est donné, où une offrande de Dieu a été offerte, où un sacrifice délibéré de Jésus s'est manifesté. On va nous parler dans Nombre chapitre 5, le verset 8, notre quatrième expression ce matin. Nombre chapitre 5, le verset 8, on va nous parler d'un bélier d'expiation. Qu'est-ce qu'est un bélier? Un bélier est tout simplement un agneau, est tout simplement le mâle de la brebis, donc un mouton qui n'a pas été châtré ou castré, un mouton qui était donc tout simplement tel quel, parfait, sans avoir été touché par la main de l'homme. Donc un bélier d'expiation. Il y avait ce sacrifice à l'occasion qu'on faisait avec ce bélier d'expiation, particulièrement le jour du Yom Kippour. Et pour nous aujourd'hui, il faut comprendre que le bélier était le moyen, était l'instrument d'expiation pour le peuple juif. C'était le moyen que Dieu avait pourvu au peuple juif pour l'expiation, pour la rémission de ses fautes. Et pour nous, le bélier par excellence, l'agneau par excellence, a été donné en Jésus-Christ. Jésus est le seul instrument, le seul moyen de salut. L'homme veut en inventer, la religion veut inventer tout un tas de moyens d'être sauvé, que ce soit par nos bonnes œuvres, que ce soit par notre piété, que ce soit par le don de notre argent. Il y avait un truc qu'on appelait à une époque, notamment au niveau de la Révolution française, l'Église avait sorti un truc qu'on appelait les indulgences. Les indulgences, c'était un papier qu'on payait et qui nous donnait une rémission de faute. Et plus je payais, plus je recevais d'indulgences. C'est une pratique, c'est une théologie, c'est un enseignement qui ne vient pas de la Bible. Et si ça ne vient pas de la Bible, ça va donc à l'encontre de la Bible. Ça nous sert simplement à nous déduire d'une faute et d'une responsabilité et apprendre à penser que par mon achat, par mon argent, par mon effort, je peux être sauvé. Le seul moyen, le seul agneau, la seule source de salut était, est et sera pour l'éternité Jésus accroché à la croix, mort pour tes péchés et ressuscité pour ton salut. Donc Dieu a offert lui-même l'agneau pour notre salut. C'est un peu l'image qu'on voit lorsque Abraham est appelé à sacrifier son fils Isaac. Et Isaac demande à son père, alors qu'ils sont en train de monter sur la montagne d'Horeb, si je me rappelle bien, ou de Morée, ils sont en train de monter la montagne. Et Isaac se dit, mais papa, il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'animal qu'on va offrir en sacrifice. Et Abraham a cette phrase prophétique qu'il ne saisit pas au moment où il va la dire, mais il dit, Dieu se pourvoira lui-même un sacrifice. Et effectivement, lorsque le papa Abraham a mis son fils Isaac comme une victime sur l'autel et qu'il s'apprêtait à descendre le poignard, Dieu a arrêté sa main et Dieu a pourvu un bouc qui était resté pris dans des buissons juste à côté pour qu'il ne mette pas sa main sur son fils Isaac. Mais ce sacrifice où Dieu va pourvoir lui-même la victime est la même chose que Christ, est un symbole de Christ qui a été offert pour toi et pour moi. Et la Bible nous dit qu'avant même que toute chose soit créée, puisque tout a été créé par Christ, avant même que toute chose n'existe, Dieu avait déjà pourvu donc le salut pour toi et pour moi à travers Jésus. Ça veut dire que Dieu t'aimait avant même que tu ne pèches, avant même que tu ne partes dans la déroute, avant même que tu ne dérailles de ton chemin, avant même que tu ne commettes la première iniquité, Dieu avait depuis toujours pourvu l'agneau sacrificiel, l'agneau expiatoire qui est Jésus offert pour toi et pour moi. Jésus reste et demeure aujourd'hui encore le seul instrument, le seul moyen, la seule voie d'expiation. Il est encore aujourd'hui l'agneau de Dieu, il est encore aujourd'hui le bélier d'expiation. Dernière expression qui est utilisé à travers cette expression, le Yom Kippour, le jour du Kippour, le jour de la rédemption ou de l'expiation. On trouve cette expression dans Exode au chapitre 30 et le verset 16. Exode chapitre 30 et le verset 16. Et on va nous parler de l'argent du rachat. On va parler d'une offrande, on va parler d'un coût, le coût, l'argent du rachat. Et cet argent du rachat, c'était lorsqu'il y avait une faute et qu'on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui avait droit de rachat sur la chose qu'on s'apprêtait à redistribuer. Et on disait, si on ne trouve personne pour récupérer cela, cela va servir à l'argent qui sert pour la construction du Saint d'Abraham, du Saint des Saints, donc du tabernacle, du lieu très saint. C'était une offrande qui allait directement aux Lévites pour le bon fonctionnement des services du tabernacle. C'était de l'argent qui servait à la construction du tabernacle. J'aimerais te dire une chose. Jésus est l'offrande qui a été donnée pour la construction de l'Église. Je répète, Jésus est l'offrande qui a été donnée pour la construction de l'Église. Jésus va dire, « Je bâtirai mon Église. » Et il bâtit son Église à travers tous ceux et toutes celles qui l'ont reconnu comme le Christ, comme le Messie, comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice expiatoire de Dieu pour l'humanité. Ce sacrifice, ce coût-là qui a été payé pour le salut de l'humanité, c'est à travers ce coût que la construction de l'Église se fait. Aujourd'hui, nous proclamons l'avancement du royaume de Dieu en proclamant la mort de Jésus, en proclamant le sacrifice qu'il a payé pour toi et pour moi. Nous travaillons à la construction de l'Église de Dieu. Nous travaillons à la construction et à l'avancement de cette Église, l'organisme le plus important qui n'ait jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi le plus important? Parce que Dieu a offert son Fils unique en prix, en gage, en rachat pour l'humanité en offrant son Fils comme agneau de Dieu. Donc sa mort, c'est le prix pour la construction de l'Église. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas d'Église. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de rachat. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de croyant. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de racheté. Sans la mort de Jésus, il n'y a ni toi et moi qui faisons avancer le royaume de Dieu. Nous sommes aujourd'hui greffés à Christ. Nous sommes aujourd'hui greffés à la famille de Christ. Nous sommes aujourd'hui greffés au corps de Christ, tout simplement parce que Christ lui-même s'est offert comme prix pour ton rachat, comme prix pour ton émancipation, comme prix pour ton affranchissement de ta servitude au péché et de ton esclavage envers le diable. Dieu a payé le prix lui-même pour que tu sois greffé maintenant à son Église et en sa famille. Voilà pourquoi tu n'as pas à payer. Voilà pourquoi je n'ai pas à payer, mais j'ai à recevoir le don gratuit de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait, ce message, chez toi ce matin? Qu'est-ce que ça fait, le fait que tu te souviennes aujourd'hui quel a été le prix de ton salut? Quel a été le prix de ton rachat? Quel a été le prix de ton pardon? Quel a été le prix de ta sanctification? Ça a été la mort de Christ. Alors, qu'est-ce que ça devrait susciter chez toi? Dimanche, lorsqu'on parlait du Yom Kippour, on parlait que c'était une journée de contrition, une journée de repentance et une journée de rachat. Dieu aime le cœur contrit. Lorsque nous venons vers lui, en pensant au sacrifice que Jésus a eu à vivre pour nous, nous devrions avoir ce cœur contrit. Lorsque nous pensons au sacrifice que Jésus a subi, nous devrions avoir ce cœur repentant. Et lorsque nous pensons au sacrifice de Jésus qui a été totalement et pleinement efficace pour toi et pour moi, nous ne devrions avoir comme réponse à ce sacrifice, comme réponse à cet amour, que le don de nous-mêmes, le don total, parfait et indéfectible de notre vie envers Christ. Alors je te pose la question ce matin, est-ce que la mort de Christ a encore un effet pour toi? Est-ce que la mort de Christ a encore un effet sur tes décisions, sur ton cœur? Est-ce que la mort de Christ a encore un effet sur ta passion? Bientôt, on va parler de Pâques, bientôt, dans quelques semaines, on arrive dans cette saison de la Pâques. Certains vont revoir des films, certains vont penser à l'occasion de cette Pâques, vont penser à la mort de Jésus. C'est malheureux que ce soit une fois par année. En fait, à chaque jour, je devrais me lever, me réveiller, vivre en me rappelant que cette vie que je vis actuellement en Christ, je la vis à cause de Jésus qui a donné sa propre vie pour moi. Mon existence a coûté la vie de mon Sauveur. Mon salut a coûté la vie de mon Sauveur. Ma vie éternelle dans la présence de Dieu a coûté la vie du Christ, la vie de mon Seigneur, la vie de mon Sauveur. Et la réponse que ça devrait susciter chez toi et chez moi, ce n'est pas une lassitude, c'est pas quelque chose qui est passable, c'est pas une normalité, mais ça devrait susciter en nous un désir ardent, une vie qu'on ne peut pas réprimer, qu'on ne peut pas represser envers Jésus. Alors je prie effectivement que les mots que je partage ce matin, non seulement rentrent dans ta tête, dans ton esprit, mais ça aille au plus profond de ton cœur et que ça t'amène à un engagement passionné envers Jésus. Je ne crois pas qu'il peut y avoir d'autres réponses lorsqu'on revient à la mort de Jésus comme source de salut pour toi. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que le Yom Kippour, on a vu que cette journée d'expiation doit être marquée dans ta vie. Il y a le jour avant, il y a le jour après. Il y a cette transition importante qui doit exister dans ta vie où tu étais pécheur hier et aujourd'hui tu es sauvé par la grâce de Jésus. Tu dois comprendre qu'il y a une offrande que Dieu lui-même a donné de toute éternité. Il a préparé cette offrande. Et le jour de la mort de Jésus à la croix, c'était le sacrifice même de Dieu parfait qui a été donné. Que Jésus est la seule et l'unique voie, le seul et l'unique instrument de salut pour toi et pour moi. Et que ce sacrifice a été fait, a été exécuté dans tous les sens du terme pour que toi et moi, nous puissions être greffé au corps de Christ. Oui, ton salut a un coût. Tu ne peux pas payer ce coût parce que Jésus l'a déjà payé d'une part et parce que Jésus est le seul qui pouvait parfaitement, totalement payer ce coût à ta place. Alors prions ce matin, simplement pour remercier Dieu et prions aussi que ce message de l'Évangile nous bouleverse, que ce message de l'Évangile viennent changer le cours de notre existence aujourd'hui. Que le message de l'Évangile ne puisse pas être tu, ne puisse pas rester calme et paisible dans notre cœur, mais que ça bouillonne et que ça bouillonne en nous pour qu'on puisse effectivement proclamer. La Bible nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que s'exprime la bouche. Alors si ce message de l'Évangile n'est pas bouillonnant dans ton cœur, il ne sera jamais bouillonnant dans ta bouche. Il faut que le message de l'Évangile redevienne bouillant à toi, en toi, que tu comprennes la misère de ton état lorsque Christ est venu te chercher, afin qu'ayant cette image claire, limpide, quotidienne en toi, tu sois un proclamateur du salut par la grâce. Seigneur, merci. Merci Seigneur de ce rappel du Kippour. Merci Seigneur de ce rappel de comment nous avons été sauvés. Merci Seigneur de ce rappel du coût de notre salut, de notre grâce. Effectivement, nous n'avons rien eu à payer. Ça nous a été donné gratuitement. Mais Jésus a payé pour nous de sa vie qui était innocente, de sa vie qui était parfaite, de sa vie qui était sainte. Elle a été offerte dès l'éternité pour nous, pour notre salut, pour notre rachat, afin que nous soyons greffés à l'Église. L'Église existe parce que le prix de son existence a été payé par Christ. Alors nous prions, Seigneur, de ne pas tomber dans une lassitude vraiment incompréhensible par rapport à ce salut octroyé par la mort et la résurrection de Jésus. En fait, Seigneur, c'est totalement illogique
totalement, Seigneur, irrationnel de savoir que tu nous as aimés, que tu as donné ta vie pour nous et que nous nous soyons tus si longtemps. Seigneur, ça serait complètement illogique de saisir pleinement combien tu nous as aimés et de saisir que nous ne pouvons être sauvés qu'en toi et bénéficier de ce salut et par la suite rester silencieux, nous taire ou te servir de façon cachée. Seigneur, la grâce que tu as eue pour nous, le salut que tu nous as octroyé, devrait nous faire bouillonner de l'intérieur à un tel point, Seigneur, où la pression monte dans nos cœurs, que la pression monte dans notre esprit, que la pression monte dans notre âme et qu'on ne soit pas capable de taire ce que toi tu places à l'intérieur de nous. Alors nous prions, Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, mais je prie pour moi-même aussi, que ce message de l'Évangile soit si imposant, si bouillonnant en moi, que je n'ai d'autre choix que de le proclamer à toute personne qui croise mon chemin. Aujourd'hui, Seigneur, mène ma sœur vers quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, mène mon frère vers quelqu'un afin qu'il puisse leur parler de Jésus, de la manière, Seigneur, dont tu voudras. Seigneur, qu'ils puissent parler de leur propre existence qui était pécheresse, condamnée, misérable devant Dieu, qui a été transformée, qui a été sauvée, qui a été rachetée, qui a été sanctifiée à travers la mort de l'agneau parfait de Dieu, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur, de bénir cette parole. Merci, Seigneur, de la oindre de ton onction toute particulière, de ton esprit qui fait en sorte, Seigneur, que lorsque nous parlons, ce soit toi qui parles aux pécheurs qui nous entourent, que ce soit toi qui parles aux gens que nous croisons. Nous t'avons prié dans le précieux nom, mais le plus précieux des noms, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, du Christ Jésus. Amen. Voilà ce que nous avions pour nous ce matin. Je ne m'excuse même pas d'avoir été emballé par le message. Je m'excuse même pas d'avoir débordé de temps. Je m'excuse même pas de m'être excité. Je suis bien heureux d'avoir proclamé cet évangile avec vous ce matin. Simplement un petit rappel, on est mercredi. Donc ce soir, nous diffusons l'étude biblique avec le pasteur Sergio à 19h. On vous invite à être là, toujours sur l'évangile de Marc, avec comme thématique « Servir Dieu en temps de défi ». Donc on vous invite à être fidèle au poste et d'écouter notre bien-aimé le pasteur Sergio lors de cette étude. D'ici là, je vais moi aussi tâcher d'être un bon serviteur de Dieu, d'être un bon proclamateur de la grâce de Dieu. Et je vous invite vous aussi à l'être tout au long de cette journée. Et pour nous, on se retrouve donc demain matin, 8h30 toujours pour notre prochaine bénédiction matinale. D'ici là, que Dieu vous bénisse et pour ceux qui vont être là ce soir, on se revoit avec le pasteur Sergio à 19h. Au revoir tout le monde, soyez bénis.